Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, on part en Nouvelle-Aquitaine à la rencontre de Brian. Il est sexothérapeute sur les réseaux. Enfance, homosexualité, dyslexie et dysorthographie, manga, écriture, podcast, couple hétérosexuel, acceptation, coming out, reconversion professionnelle, éducation sexuelle, engagement LGBT et sa présence évidemment sur les réseaux sociaux. Vous l'avez compris, on a plein de questions à lui poser. Je vous souhaite une très belle rencontre avec Brian cette semaine, une belle personnalité ouverte et humaine. Bonjour Brian.
Bonjour.
Brian, tu connais le principe du podcast, on va remonter le temps, ton histoire. On se trouve ici en plein cœur de Poitiers, chez toi, dans ton petit univers. Peut-être qu'on décrira des petites choses comme ça, des petites figurines un peu. C'est très pop, hein, très acidulé ici chez toi. La première question, bah, tu la connais, elle est traditionnelle. Quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi, du jeune Brian, enfant, le plus lointain?
Alors, le souvenir le plus lointain que j'ai, je ne sais pas pourquoi c'est souvenir, mais c'est pendant que je fêtais Pâques avec ma famille. Je ne sais pas exactement quel âge j'avais, mais j'étais tout petit. Je me rappelle chercher les œufs. Et je trouvais des escargots et jouais avec les escargots. C'était un running gag dans mon enfance. J'étais l'ami des escargots. Et je me rappelle que ce jour-là, j'en avais trouvé à côté des œufs. Et j'étais plus fasciné par les escargots que par les œufs. Voilà, c'était un souvenir somme toute très basique, mais qui m'a suivi très loin. Parce qu'encore aujourd'hui, j'aimerais adopter un escargot géant. Donc je pense que c'est mon animal totem. Ou que je vais me réincarner en escargot, je ne sais pas. Mais...
Et c'est un souvenir plutôt heureux. Tu te rappelles quel âge t'avais?
Bah alors là, je pourrais pas te dire. Je pense que j'avais moins de 10 ans. Ouais. J'étais vraiment tout petit. Hein. Mm-hmm. C'était... Oh ouais, je devais avoir 7-8 ans, grand maximum. Mm-hmm. J'étais un petit... je faisais peut-être même pas un mètre, je sais pas. Et non, c'est assez positif. Hein. Franchement, c'était sympa. C'était un moment convivial en famille, à chercher les œufs. Mais Brian cherchait les escargots, quoi.
Il était comment le tout jeune Brian à 7-8 ans? Il avait des rêves, des envies, mis à part d'escargots.
Le petit Brian, il était très il aimait beaucoup bouger. Je pense qu'il avait beaucoup trop d'énergie, mais il était aussi très mature, parce que j'ai grandi avec des adultes et très peu d'enfants. Du coup, j'étais très mature très vite et c'était quelqu'un de très réfléchi, qui observait beaucoup, parce que j'observe tout le temps. Et je me rappelle que quand j'étais petit, je le faisais déjà. Et quelqu'un plein d'énergie, très gai dans sa façon d'être et qui aimait la vie, quoi.
Et tu te souviens de l'éducation que te donnent tes parents à cet âge-là?
Alors, l'éducation... Alors moi, il faut savoir que j'ai eu des parents séparés dès mes moins d'un an, je crois. D'accord. Donc, j'ai vraiment aucun souvenir de mes parents ensemble, ouais. Mais ils s'entendent très bien, ils sont amis. Et l'éducation était très... c'était assez contradictoire parce que mon père, je le voyais le week-end. Donc, si tu veux, c'était très cool parce qu'il n'y avait pas l'école. Mon papa était gérait une entreprise. Donc, on était très... on passait des bons moments, quoi. On avait de quoi passer des bons moments et on passait souvent des très, très bons moments. Alors qu'avec ma mère que je voyais la semaine, c'était très devoir et ma mère était un peu plus stricte. Quelque chose qu'elle a perdu avec le temps avec mes petits frères. Mais en tout cas, avec moi, son premier enfant, elle était très, très, très stricte.
Et justement, tu sais, puisque tu parles des devoirs, de l'éducation, tu étais plutôt bon à l'école?
Alors, l'école et moi, grande histoire de discorde, j'ai envie de dire.
On a touché le point sensible.
C'est clair, on a touché le point sensible. Il faut savoir que j'ai toujours eu des problèmes et des lacunes à l'école. On ne savait pas trop pourquoi. Jusqu'au moment où je tirais en CM2, on s'est rendu compte que j'étais dyslexique, dysorthographique. Alors, on s'est expliqué le tout. En fait, ça expliquait pourquoi Brian n'arrivait pas à lire, pourquoi Brian n'arrivait pas à avoir des bonnes notes en dictée, etc. Pourquoi Brian faisait toujours des fautes d'orthographe. Je me rappelle que ce jour-là, ma mère est tombée en larmes et s'est excusée des centaines de fois. Et s'excuse encore aujourd'hui, alors que j'ai 24 ans quand même. Parce qu'elle comprenait pas et elle voulait que j'y réussisse. Et elle était très, très dure avec ça. Mais très dure. Hein. Je pense qu'elle ne m'en voudra pas si on en parle, parce qu'elle assume. Mais... je me rappelle de soirées entières pendant des heures où j'étais penché devant un texte et je devais lire. Et à chaque fois que je bûchais, j'avais le droit à une petite claque derrière la tête, tu vois. C'était très, très, très perturbant. Du coup, forcément, le petit garçon, il se met à pleurer. Donc, il arrive encore moins à lire. Enfin, ouais, voilà. Mais sinon, après, quand on s'en est rendu compte, ça allait un peu mieux parce que j'avais du coup des genres d'adaptations en cours.
Ouais.
Je faisais plus les dictées ou j'avais des dictées à trous. Fallait...
Allégé.
Voilà, donc franchement, après, ça allait de mieux en mieux. Et puis, une fois que je suis sorti du système scolaire traditionnel, donc après le collège, ce que je veux dire dans le système scolaire traditionnel, c'est français, anglais
ouais.
et le programme qui est vraiment traditionnel et que tout le monde suit, quoi.
C'est-à-dire que tu es parti sur un enseignement technique ?
Ouais, c'est ça. Je suis parti direct en enseignement professionnel.
Mmh.
Du coup, parce qu'au lycée, je suis parti en CAP pro, CAP commerce. Après, j'ai fait un bac pro, etc.
Mmh.
Et forcément, quand tu arrives en pro et que tu es dans le bon milieu, que c'est un métier qui te plaît, ça fonctionne tout seul. Tu as des
ouais.
bonnes notes parce que tu n'as pas l'impression de travailler, en fait.
Cette dysorthographie, dyslexie, tu en parles assez librement maintenant, on le sent, mais on sent quand même que les conséquences t'ont marqué. On sent qu'il y a peut-être encore une souffrance, ce qui expliquerait peut-être que ta maman s'excuse encore de ça.
Alors, je ne sais pas si elle s'excuse encore de ça par rapport à ça, mais effectivement, je pense que quand on a des... Je pense que en France actuellement, même s'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, il y a encore trop peu de choses qui sont mises en place pour les personnes 10, parce qu'il y en a beaucoup, on est énormément, il y a beaucoup de troubles 10.
Bien sûr.
Et parfois, ce n'est pas du tout respecter les aménagements, etc., etc. Et puis, on est encore dans un monde qui est dans le jugement.
Ouais.
Moi, je vois, quand j'écris quelque chose, que ce soit un CV, une lettre de motivation ou quoi, très vite, on va essayer de me reprendre, alors que moi, la faute d'orthographe, je ne l'ai pas vue, quoi.
Ouais.
Donc, ouais, ce n'est pas facile. Tu es là et au final, tu envoies des fois des lettres de motivation, des CV ou des choses comme ça, quand je cherchais du travail, par exemple. Tu sais que si tu n'as pas de réponse, souvent, c'est parce qu'ils ont dû voir des choses dans le texte que toi, tu n'as pas vu et ils
ouais.
t'ont jugé sur ça, alors que c'est n'importe quoi.
Et ce n'est surtout pas en lien avec le travail pour lequel tu postules.
Non, globalement, non, pas forcément. En fait, là, moi, je suis dans le commerce, je travaille dans un magasin de vente. J'ai toujours travaillé dans des magasins et au final, le seul moment où je pars des lacunes, c'est quand j'écris le nom de famille des gens ou le prénom pour trouver leur compte de fidélité. Enfin, je pense qu'à un moment donné, ils ont juste à épeler, ils épellent et c'est fini, quoi. Et on en rigole ensemble.
Et tu peux le demander d'épeler, tout simplement, et ça passe comme une lettre à la poste.
Ah, mais totalement, totalement. Moi,
ouais.
c'est la première chose que je fais. Hein. Votre nom, d'accord, lettre par lettre, s'il vous plaît.
Voilà.
Et puis voilà, après, ça va tout seul. Hein. Des fois, je me trompe pendant 20 minutes parce que j'échange des lettres, mais les gens en rigolent. Je les fais passer derrière la caisse, ils l'écrivent eux-mêmes, et puis voilà, c'est fini. Hein.
Mais ça provoque quand même encore un petit handicap quand même.
Ah bien sûr, bien
léger,
sûr.
Mais...
De toute façon, dans un monde comme le nôtre, où surtout la langue française qui est très compliquée,
mmh.
Non, bien sûr que oui, hein, les personnes qui sont 10, c'est compliqué. Et après, il y a différentes degrés. Moi, j'ai vraiment pas de chance parce que je le suis à un niveau très sévère.
Ah ouais ?
Ouais, au point où même après plus de 10 ans avec des orthophonistes bien différentes, le dernier jour, on m'a dit « Brian, t'arriveras jamais à lire plus vite qu'un enfant de CP à voix haute. » Et là, je me suis dit « Ah ouais, d'accord, donc tout ça, toutes ces années de travail acharné toutes les semaines à faire des heures de route et tout pour aller chez les orthophonistes, on te dit qu'au final, ok, mais on peut pas faire plus, quoi. »
Et pourtant, quand on t'écoute parler, là, on n'imagine pas.
Ah ouais, ouais. Maintenant, franchement, quand... Alors, des fois, je bûche quand je parle, hein, normal, comme tout le monde, je pense.
Oui, ça arrive à tout le monde. Hein.
Oui, c'est clair. À côté de ça, j'ai un vocabulaire qui est quand même assez fourni. Et je me rappelle qu'à partir du moment où les professeurs ne mettaient plus de notes au niveau de mes fautes d'orthographe, j'avais très souvent 19, 20 en rédaction parce que le vocabulaire que j'employais, les histoires et tout ça était très, très bon. C'est juste que les fautes d'orthographe, je bûche, quoi.
T'en es sorti comment ? Grâce justement aux orthophonistes, entre autres ?
Je pense qu'ils m'ont beaucoup aidé et c'est vraiment des personnes géniales. C'est un métier magnifique que je trouve. Ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé. J'ai les clés en main. Je sais comment fonctionnent certaines règles de grammaire, etc. Maintenant, effectivement, quand j'écris, j'y pense pas forcément. Mais si je m'y repenche, j'ai encore quelques règles qui sont en tête et je peux essayer de m'auto-corriger. Alors, j'ai jamais tout le temps raison, mais je peux essayer de m'auto-corriger, quoi.
Disons que tu arrives à faire ta propre correction et à améliorer ton écrit.
Ouais, on va parler d'amélioration, pas d'un truc total, etc., parce qu'il restera forcément des fautes.
La perfection n'est pas de ce monde.
Oh oui, bien sûr, mais alors elle est très très bon pour un dyslexique.
Peu importe.
Mais oui, on peut s'auto-corriger sur des règles de grammaire, j'ai envie de dire le ça avec un S ou avec un C, enfin
oui.
Des choses comme ça. Après, l'orthographe en lui-même, là, c'est plus compliqué.
Ouais. Tiens, t'as parlé d'histoire il y a quelques instants, de rédaction. Ça fait peut-être écho à ton intérieur. T'es très imaginatif comme garçon.
Ouais, j'ai beaucoup d'imagination. Bah, c'est un truc qui me suit depuis que je suis petit, hein. J'ai la tête dans la lune. Moi, j'observe, j'imagine et je rêve.
Et sur un clavier, puisque des histoires, tu en racontes, tu en crées, tu en inventes.
Exactement, exactement. J'écris des histoires. Je suis actuellement en pleine écriture d'une fiction sur Wattpad.
C'est quoi Wattpad?
Wattpad, c'est une application qui est ouverte à tous, qui est gratuite, et en fait
D'accord.
sur laquelle on peut découvrir plein de jeunes écrivains, écrivaines, qui écrivent leurs histoires, etc. C'est tout à fait gratuit et c'est franchement plutôt cool pour pouvoir se faire connaître. Moi, j'avais déjà écrit un livre, mais là, cette fois-ci, je voulais que ce soit ouvert à tout le monde, que ce soit gratuit, parce que c'est pas que mon histoire, c'est l'histoire de plein d'autres gens qui, ensemble, en fait, c'est via du RP, du roleplay, donc sur Internet, c'est quand tu crées ton personnage et que tu es dans un univers propre, etc. Et du coup, on crée tous l'histoire d'une mafia qui s'appelle la mafia incolore. Moi, je suis évidemment le chef, puisqu'on a des grosses chevilles.
Et ça marche.
Et ça marche, ça marche, ça marche.
Tu sais pas à peu près combien de personnes te lisent chaque semaine, parce que tu publies assez régulièrement quand même, hein.
Je publie assez régulièrement et je pense que là, en ce moment, il y a à peu près... Je dirais 200 personnes bien actives sur les
C'est
chapitres.
bien, hein, déjà.
Ouais, c'est pas mal du tout même, parce que c'est pas une histoire qu'on me parlait, c'est des personnages qui sont hauts en couleur, ça plaît pas forcément à tout le monde. Et non, pour le coup, ça plaît vraiment, c'est assez rigolo, et puis ça a amené du monde qui crée aussi leurs personnages, et ça étoffe l'histoire, quoi.
Mais alors, du coup, la mafia incolore, on est dans quel univers?
Bah, dans un univers comme le nôtre actuellement, on est au 21e siècle.
D'accord.
Il y a des. Alors, faut savoir que de base, ça a été créé en 2020, ce truc-là,
D'accord.
la mafia incolore, le RP, tout ça. Et parce qu'en fait, il y avait d'autres mafias qui existaient, qui ont cessé d'exister depuis parce que des personnes ont arrêté tout simplement de s'en occuper. Mais nous, on a toujours été là dans notre délire. On trouvait ça rigolo, nos histoires et tout ça. Et au final, bah, on s'est dit, on relance tout là en 2023, fin
On y
2023.
va.
Et on a relancé. Et au final, les gens sont au rendez-vous et c'est trop drôle, quoi.
Donc ça, c'est l'écriture, ça te prend un petit peu de temps quand même, hein, par semaine.
Un peu, ouais, un peu.
Ouais.
Là, j'ai un peu relâché les 2-3 dernières semaines avec mon déménagement. Et puis parce que le fait, du coup, que depuis que j'ai lancé ça sur Wattpad, il y a tellement de monde qui s'ajoute
Ah
dans le
ouais.
RP que maintenant, ça devient très compliqué de suivre et de retranscrire, quoi. Les dialogues, ça prend des heures. Au début, j'étais sur des petits chapitres d'à peu près 600, 700 mots. Je voulais des trucs très rapides à lire. Là, les derniers sont autour de 3000 mots, quoi. Ah ouais, non, mais ouais, ça prend du temps.
Là, c'est plus le même boulot, là.
Pas du tout. Pas du tout, c'est très long. Et du coup, je pense que les prochains chapitres seront très narratifs et non avec du dialogue, parce que si je reprends le dialogue de chaque personne qui écrit, etc., on n'a pas fini.
En fait, t'es hyper actif, mais j'ai l'impression que ta source d'inspiration, elle est aussi un peu chez toi. Il y a beaucoup de choses autour de l'univers des mangas, des fictions japonaises. T'es tombé dedans assez rapidement, ça?
Ouais, les mangas, les animés, tout ça, parce que moi, ma mère était une grande fan, et
Ouais.
donc j'ai grandi avec, à la télé le soir, Princesse Sarah, Ranma 1/2, Cat Size, plein de mangas comme ça de l'époque.
Oh, c'est les mangas de mon enfance.
Ah, mais c'est les meilleurs mangas, Cat Size, c'est le meilleur manga. Et non, franchement, je suis tombé dedans, oui, très vite, et puis au final, j'ai jamais lâché, et maintenant, je suis les actualités mangas.
T'es hyper actif comme garçon. On va le dire clairement, Brian, t'es hyper actif. On va revenir sur un autre volet après, plus tard, mais il y a autre chose, c'est que tu partages du contenu aussi en ligne via tes podcasts. Et ça, c'est particulier parce que c'est la première fois que je suis face aussi à un podcasteur. Pourquoi ce choix du podcast? Parce que c'est pas simple. Et qu'est-ce que tu as voulu porter comme discours? Parce que quand on fait un podcast, on porte aussi un discours, des valeurs, des choses.
Bah alors, le podcast, c'est un petit peu arrivé comme un cheveu dans la soupe. C'est parce que j'en écoutais beaucoup et je me suis dit, bah pourquoi pas moi? Je me suis renseigné de comment en faire, etc. Les manœuvres étaient assez simples.
T'as vu que c'est beaucoup compliqué.
Non, pas du tout, hein. Franchement, lancez-vous dans le podcast.
Ah bah non, pas trop. Non, si, je plaisante.
du coup, la première saison de mon podcast s'appelait Comment ça va les gueux? C'est une phrase que je dis beaucoup, qui est très. C'est un peu un running gag avec ma communauté. Et on parlait de sujets tabous, parce que c'est ce que je fais depuis 2020 sur les réseaux, mais dans un format un peu plus long, un peu plus étoffé, avec des gens, pourquoi pas, des témoignages, des choses comme ça, et c'était vraiment cool. Et après, du coup, il y a eu la saison 2 qui était sexo et qui est encore actuellement en route, qui s'appelle Comment ça ken les gueux. Bah, toujours pareil, hein, ça parle de sujets tabous avec des témoignages, etc. C'est trop cool.
Tu vois, tu sens cette sexualité qui évolue peut-être dans les pratiques, dans tout ça. Tu sens qu'il y a une sorte, je vais dire le mot, mais d'appétence peut-être à se réapproprier sa sexualité. Est-ce que c'est quelque chose que toi, en tant que professionnel, on va y revenir aussi, hein, parce que c'est vraiment un univers dans lequel tu gravites, tu sens qu'il y a l'approche de la sexualité est en train de changer?
Franchement, ouais. Je pense qu'aussi c'est une question de génération, parce que j'ai l'impression que ma génération est vraiment hyper ouverte
D'accord.
à beaucoup de choses, mais beaucoup plus ouverte à découvrir des choses autour de la sexualité, etc. Se met beaucoup moins de limites. J'ai l'impression que la génération, par exemple, de mes parents, qui j'ai l'impression avait beaucoup plus de limites autour de ça, et qui très souvent, les personnes qui me demandent de l'aide autour de la sexothérapie, très souvent, c'est des adultes, parce qu'au final, ils ont un petit peu un manque de connaissances autour de tout ça, parce qu'ils ne sont pas forcément renseignés, parce qu'ils n'ont pas forcément eu les mêmes clés en main que ma génération a eu. Mais effectivement, j'ai l'impression que ça évolue, les mœurs évoluent, les gens découvrent de nouvelles choses, ont moins cette pression, ont peut-être moins de honte à assumer leurs désirs, leurs fantasmes, etc. Et au final, c'est trop cool, quoi.
Qu'est-ce qu'on te demande le plus? Sur quoi on t'interroge le plus?
Alors, bizarrement, souvent. Ah oui, très souvent, ouais. C'est principal. C'est fou. C'est les gens qui ont des problèmes à trouver et à mettre un nom sur leur sexualité. Ouais, parce que je pense que c'est le fait que je sois quelqu'un d'ouvertement gay, du coup,
Oui,
et
ça, on
que.
va y revenir aussi. Tu n'en as jamais fait mystère.
Ouais, non, jamais de mystère, surtout pas au point sur ça. Et très souvent, du coup, je fais des vidéos où je présente un peu des sexualités méconnues.
Ah ouais? Comme par exemple, qu'est-ce qui va être méconnu ou mal connu?
Ouais, plutôt mal connu, ou souvent méconnu, parce que du coup, il y a moins de personnes qui sont dans ces sexualités-là. Mais ma dernière vidéo, par exemple, sur une sexualité, ça parlait de la demi-sexualité.
D'accord.
C'est le fait que tu as une attirance sexuelle envers une personne que quand tu ressens de l'amour pour elle, que quand tu as vraiment un ressenti émotionnel fort avec la personne. Donc très souvent, au début, ces personnes se sentent asexuelles. C'est quand tu as zéro ressenti sexuel, zéro attirance. Mais au final, quand elles ont un sentiment fort, et d'un coup, elles sont excitées. Voilà.
À quel âge tu t'es rendu compte, toi, de ta sexualité, de ton homosexualité?
Je pense que je m'en suis rendu compte très vite, très
Ah ouais?
jeune, parce que je trouvais les garçons plus beaux que les filles, parce que j'observais plus les garçons que les filles.
Ouais.
Et après un jour, pour en être sûr, je devais avoir 12 ans peut-être, je me suis dit, bon, go essayer, quoi, parce que là, il y a trop de questions, j'ai envie de savoir.
Et à 12 ans, tu as eu ta première expérience?
Ouais, je dirais que ouais, 12, 13, 14, c'était mes premières expériences à peu près.
Mais attends, il n'y avait peut-être pas tout, si, il y avait tout.
Je dirais qu'au début c'était du touche quéquette
Ouais.
et qu'après au niveau, je pense que ma vraie première fois c'était à 14 ans. Ma
D'accord.
vraie première fois c'était à 14 ans, mais de toute façon je m'en suis très vite rendu compte, hein, parce que il y avait ça m'intéressait pas du tout, quoi, les filles, et je me suis dit c'est pas normal, et j'ai essayé et au final ça m'a plu, donc voilà.
Oui, donc il n'y a pas eu de machine arrière ou d'autres tentatives de l'autre côté.
Non, pas du tout. Alors oui et non, parce que
Ah, quand on creuse,
quand on creuse, on peut trouver des choses.
voilà.
J'ai déjà, je pense, ressenti des sentiments peut-être amoureux pour des femmes à l'époque, parce que je pense vraiment avoir ressenti des choses pour des filles, parce que j'ai déjà été en couple avec des filles. Hein. Ma
Ah ouais.
plus longue relation, je crois que c'est 2 ans et demi, c'était avec une fille au collège.
Ah oui, quand même.
Et oui.
Ah, t'avais plus que 12 ans, là.
Ouais, mais justement, c'était. Je sais pas pourquoi, j'étais tombé amoureux d'elle. Et après, je tombe amoureux d'une autre fille. Bon, alors, du coup, à chaque fois, ce qui bloquait, c'est justement que sexuellement, je pouvais pas. Ça me dégoûtait, donc je ne faisais rien. Donc, au final, à chaque fois, ça s'est terminé
Elles
comme ça.
essayaient peut-être aussi, elles, mais ça ne fonctionnait pas.
Elle a voulu plus, parce que là, t'étais aux fleurs de l'âge, la sexualité, ça
Tu la
commençait un peu.
découvres,
Voilà, c'est
oui.
ça, les hormones, tout ça. Donc, bon. Mais au final, moi, ça fonctionnait pas du tout. J'arrivais pas à me forcer. J'ai déjà essayé de me forcer, mais ça me dégoûtait.
Ouais, non,
Et au
il faut
final,
pas.
ouais, c'est ça. Donc, je pense que. Non, et c'est peut-être même ce qui m'a un peu mis dans tout ça, parce que j'ai commencé à ce moment-là à faire des recherches autour de pourquoi je ressentais ça, et au final, voilà quoi.
Ça s'est bien passé, ça a été bien pris dans ta famille, il n'y a pas eu de problème.
Alors non, parce que j'ai fait une technique, la technique de
Ah.
la taupe. Non, je
Ah mais dis-nous, parce qu'on a envie de savoir, s'il y a une solution pour que les coming out se passent bien, faut y aller.
Alors, c'est en tout cas ma solution. D'abord, j'ai déjà, parce que comme je vous ai dit, mes parents sont séparés, donc
Ouais.
j'ai pris la personne avec qui j'étais, on va dire, le plus proche et qui était la personne qui, je pense, entre mon père et ma mère, pouvait le mieux l'accepter, c'était ma mère, parce que mon papa est un petit peu, était un petit peu macho, tu sais, il aime le foot, tout
Ouais.
ça. Mon fils, il va draguer des meufs et tout.
Ouais, on sait ça.
Voilà, donc il y avait un peu plus ce truc de je sais que ça va le décevoir, alors que ma mère, elle avait toujours été dans ce truc à nous dire ouvertement, si vous êtes gay, c'est pas grave,
Ah
si
oui,
vous
elle le
êtes.
mentionnait, elle le verbalisait vraiment.
Ah ouais, totalement, totalement. Et je pense qu'elle le verbalisait parce qu'elle savait que je
Elle
l'étais.
savait, ouais.
Ouais, parce que le jour où du coup, moi, ma technique, c'était, je lui ai annoncé que j'étais bi, parce que je me suis dit, comme ça, la pilule,
M'a mieux
voilà,
passé.
va mieux passer. Et après, dans le futur, je dirais que je suis gay. Au final, elle est venue, elle m'a réveillé, parce que je crois que j'avais écrit sur une petite lettre et tout. Elle m'a réveillé, elle m'a dit que ça se passerait très bien et tout. Et quand je me suis réveillé, elle m'a dit, bah Brian, moi, j'accepte et tout, très bien. Mais par contre, aujourd'hui, on va aller en parler à ton père, quoi. Et moi, j'étais pas prêt. Je me suis dit, non, maman, j'entends des paroles à toi, c'est un secret, papa, pas tout de suite, quoi. Mais au final, elle m'a poussé, on y était ensemble, elle était là, elle lui a expliqué que voilà, c'était comme ça, qu'il fallait qu'il accepte. Et ça a pris du temps, mais je pense qu'il a accepté.
D'accord.
Voilà. Mais au début, il pensait que j'étais bien. Hein. Il a vraiment essayé de me faire tenter des trucs avec des filles et tout, quoi.
Bon, les pères machos, on vous voit. Il faut arrêter ça maintenant.
Totalement, totalement. S'il vous plaît, arrêtez cette masculinité toxique, parce que ça bloque vos enfants
Voilà.
et voilà, pensez à leur bonheur un peu. Voilà, ils sont sortis de vous, vous les aimez, alors pensez à leur bonheur.
Et vous les élevez aussi.
Ouais, vous les élevez
Bien
totalement.
sûr.
C'est quand je vois des parents qui abandonnent leurs enfants à cause de leur sexualité, je me
Ben
dis,
non.
mais est-ce que vraiment t'as pris du plaisir à élever cet enfant, quoi? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que t'as un minimum d'amour pour lui? Enfin, c'est trop bizarre.
Et pour toi, évidemment, ça s'est bien passé, mais j'imagine que dans ta pratique, on va y revenir, hein, mais ou dans ton podcast, j'imagine que tu dois avoir des questionnements sur ça. Ça se passe pas forcément bien chez tout le monde.
Ah bah non, pas du tout, ça se passe pas bien chez tout le monde, il y a beaucoup beaucoup de peur, parce que faire son coming out, franchement, désolé de vous le dire, les hétérotoxiques, mais c'est un moment donné où tu portes tes balls comme personne, hein, parce que là tu assumes devant tout le monde que bah, tu es différent, et une différence qui est encore une fois pas hyper acceptée, de plus en plus, mais pas hyper acceptée, quoi. Tu te mets dans le viseur de tous ces homophobes, et franchement c'est difficile, les premiers mois et tout, tu te dis, ouais, quelle merde, j'aurais peut-être pas dû le dire.
D'autant que il n'y a pas de coming out à faire quand on est hétéro, et c'est peut-être là la part d'injustice.
Ah mais totalement. Moi, j'encourage les gens à faites pas votre podcast. Surprenez vos parents. Emmenez, dites-leur, ce soir, il y a ma copine qui vient. Et en fait, c'est pas une copine, c'est un copain, tu vois. Et ils vont être mis sur le fait accompli. Et franchement, je connais des gens qui ont fait ça. Et en vrai, si vos parents sont ouverts d'esprit, pourquoi pas tester? Parce que je pense que ça peut être très drôle. Mais bon, après, s'ils sont pas ouverts d'esprit, faites pas ça parce que ça peut être dangereux. Mais en tout cas, oui, c'est pas normal que nous, gays, bi, lesbiennes, tout ça, on doit faire des coming out, alors que les hétéros, ils en font pas, quoi. Enfin, trop bizarre.
Il y a une autre facette de toi que je voudrais qu'on aborde qui est hyper importante aussi. En fait, il y en aurait plein, mais on n'aura malheureusement pas le temps de tout faire. Mais c'est ton futur métier de sexothérapeute. En tout cas, c'est comme ça que c'est vers ça que tu te reconvertis actuellement. Ce n'est pas anodin puisque tu es en vraie formation pour le devenir. C'est un vrai choix cette fois-ci. J'imagine que le métier actuel ne l'est peut-être pas forcément. On est plus dans quelque chose d'alimentaire peut-être.
Alors, j'ai fait quand même des études de commerce et je pense que ça me plaît réellement parce que
Ouais,
en fait, j'aime
d'accord.
beaucoup le contact avec les gens. Et je pense que c'est sur ça que ça s'est joué parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui est très bavard, qui m'intéresse aux gens. Et je pense que du coup, quand on m'a dit c'est un métier dans lequel tu peux parler aux gens, je me suis dit, mais trop bien quoi, trop trop cool. Ça m'a tout de suite plu. Et en même temps, bah, mon père était dans le commerce. Très vite, quand j'étais petit, j'étais avec lui en train de vendre des VMC, des trucs et tout commercial au toquer aux portes des gens et tout.
Alors, les VMC, c'est des ventilations de maison hein, pour renouveler l'air intérieur de la maison. Je précise, si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas calé chez Leroy Merlin, on vous explique.
Voilà, ça c'est des
Voilà.
VMC. C'est très cool. Ayez des VMC chez vous.
Ah bah c'est très utile, surtout c'est même indispensable.
Exactement. Mais du coup, j'étais tout de suite dans ce truc de commerce. Et après, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que cet amour pour parler et m'intéresser aux gens, ça pouvait déjà être dans d'autres métiers, que ce n'était pas
Bien
forcément le
sûr.
commerce. Mais le commerce, ça me plaît. Hein. Je pense qu'un jour, je finirai peut-être à ouvrir à quelque chose, une boutique, un sex shop pour combiner les deux.
T'aimerais ça, c'est
Mais
marrant, mais
pourquoi?
c'est pourquoi pas, t'aimerais ça ouvrir un sex shop parce que on parlait de réappropriation de la sexualité, ça peut passer aussi par effectivement des accessoires, des choses complémentaires, etc. T'aimerais ce genre de choses?
Bah franchement, je me dis, Peut-être qu'un jour, pour combiner les deux, je vendrai ce genre de produit.
Ouais.
Parce que ça m'a toujours fait rire, parce que dans ma ville de base où je fais mes études de commerce, qui est Châtellerault, à côté de Poitiers, il n'y a pas de sex shop. D'accord ? Il y en a eu plusieurs, mais ils ont tous fermé.
Et toi, ça, tu sentais que ça t'avait manqué, toi, ça ?
Pas du tout,
non,
pas forcément, tu vois. Mais au final, quand les gens me demandaient « Ah, oh, un jour, tu ouvriras peut-être un magasin ?» J'étais en mode « Bah oui, c'est pour ça que j'ai fait mes études. » Puis quand ils me demandaient quoi, au final, bah, quand le premier truc que je me suis dit « Prends un truc qui n'existe pas dans ta ville », bah, c'était un sex shop. Et donc,
ouais.
En fait, c'est resté un peu un running gag. Et j'étais en mode « Bon, bah, j'ouvrirai peut-être un sex shop. » Et je me dis que maintenant, sexothérapeute, de toute façon, oui, je touche des sex toys, j'en parle très souvent. Donc peut-être un jour, ouvrir un truc autour de ça, on ne sait pas.
Pourquoi sexothérapeute? D'ailleurs, il y avait une envie de... Alors, avec cet amour du dialogue, du contact humain, on l'a bien compris, mais tu avais envie de parler de sexualité, tu avais envie de libérer la sexualité aussi, peut-être.
Bah, alors, bizarrement, je pense que je suis quelqu'un... En fait, alors déjà, moi, de base, je fais beaucoup de blagues autour du cul, alors peut-être que ça vient de là, mais...
On n'a pas fait depuis tout à l'heure, hein. Je m'inquiète.
Oui, non, mais j'en fais beaucoup quand... Voilà, il me suffit d'un petit verre de coca et c'est bon, quoi. Moi, la tête, elle tourne et c'est fini, le sucre. Mais du coup, moi, je suis très open, je parle très vite, je suis très sociable.
Ouais.
Et du coup, je fais très vite des blagues un peu de cul. Et je sais pas pourquoi, mais les gens, depuis que je suis jeune, hein, depuis le lycée, ont toujours eu ce truc de parler de leurs problèmes sexuels avec moi. Alors que de base, j'étais pas du tout sexothérapeute, quoi. Moi,
non.
De base, même avant que je devienne créateur de contenu autour de ça, je me rappelle très bien en cours de commerce, des gens qui venaient me voir sur mon pôle et tout, et me dire « Ah, Brian, j'ai des problèmes, machin, est-ce que tu peux m'aider ?» Et des gens à qui je ne parlais pas dans la classe, de base.
Et quel genre de problème, déjà, à l'époque ?
Des problèmes du style « je me suis pas protégé
ouais. »,«
comment faire ce genre de choses ?» Enfin, c'était des problèmes de gamin, c'était en découverte de sexualité, quoi.
Ouais.
Mais du coup...
Peut-être une facilité à te parler, à engager la conversation avec toi, et puis une oreille attentive, la tienne.
Bah, je pense que c'est ça, parce que du coup, vu que je suis ouvert un peu à tout le monde, très sociable, et que je suis zéro dans le jugement, je pense que les gens se libèrent plus avec moi qu'avec d'autres. Et du coup, très vite, j'ai été un petit peu... Beaucoup de gens comparent à ça sur Internet, et c'est vrai que du coup, c'est un peu le cas. Pour les gens qui n'ont pas vu Sex Education, la série Netflix, il y a un petit jeune homme qui s'appelle Otis,
ouais.
Et qui du coup va faire sexothérapeute lui aussi,
ouais.
Et qui du coup, dans son établissement scolaire, fait littéralement ce que je faisais à l'époque. Du coup, bien avant la série Netflix, j'étais un peu ce petit, ce jeune là que tout le monde venait voir dans la cour de récré parce que problème sexuel et parce que il n'y avait pas de structure mise en place au lycée, et c'est vraiment un truc qui est très dommage aussi, je trouve, de conseils sexuels, parce
ouais.
que ok, d'accord, l'infirmière elle donne des capotes, mais bon, c'est quand même vachement limité.
Oui.
Voilà. Donc
il n'y a pas tellement le conseil avec la capote. Il y a la capote, mais c'est tout.
C'est ça. Elle dit protégez-vous, elle donne des capotes et c'est fini, topipo, quoi. Enfin bon,
ouais.
Tu vas l'avoir pour avoir des doliprane et c'est fini. Donc bon, je trouve que c'est un peu dommage, mais je pense que c'est ça qui m'a un peu lancé là-dedans, parce qu'après,
ouais.
Du coup, quand j'ai ouvert TikTok, je me suis dit, oh, fais un truc qui te ressemble. Au début, c'était un peu d'humour, et je me suis très vite tourné vers l'éducation sexuelle et à parler de choses taboues. Et au final, je me rappelle là, en 2023, fin 2023, j'étais avec mon conjoint au restaurant,
ouais.
Et on parlait justement de sex education, et j'ai dit punaise, c'est un truc de fou, mais j'ai raté ma scolarité parce que j'aurais trop aimé faire ces études là et devenir sexothérapeute comme les personnages dans l'émission et tout, parce que c'est un truc que je fais déjà de base, parce que moi, depuis que je fais créateur de contenu sur internet, j'en parle et j'aide des gens en privé, quoi. C'est
bien
plus
sûr.
La sphère juste scolaire avec mes camarades ou mes amis, là c'est vraiment j'aide des inconnus
plutôt gay ou hétéro d'ailleurs.
Il y a de tout. Il y a de tout, il y a des adultes, il y a des enfants, il y a des gens qui viennent à peine, enfin des enfants, attention les amis, hein. Il y a des jeunes qui se lancent dans leur sexualité, qui ont leur première fois, qui me posent des questions parce que leurs copains, machin, et au final, ouais, il y a de tout, il y a pas mal d'hétéros aussi, en fait, il y a vraiment de tout, c'est ça qui est hyper intéressant, parce qu'au final, tu te rends compte que la sexualité, c'est pour tout le monde, et du coup, j'étais à ce restaurant avec mon copain, et j'ai dit, putain, j'ai raté ma scolarité et tout, et alors lui, il est dans le milieu médical, et il me regarde, il rigole, il me fait, mais Brian, mais pas du tout, quoi, il me fait, t'as pas besoin de faire des études pour faire sexothérapeute. Je dis, mais comment ça, tu me mens, c'est pas possible, ça doit être des dizaines d'années d'études, parce que quand tu vois un thérapeute, t'as vraiment cette impression, il y a une espèce d'aura et de connaissance qui est un peu mystique, tu dis, mais ce mec là
mais c'est toi dis. C'est toi qui viens le voir et qui le place autour de cette aura, en fait.
Au final, ouais, moi c'était cette idée que j'avais, tu sais,
oui.
Parce que je sais pas, pour moi t'as tellement des connaissances qui sont très particulières que t'as forcément fait des dizaines d'années d'études, alors qu'en fait j'ai appris qu'il y avait un gros flou juridique autour de ce genre de métier, et que déjà on peut faire ce métier même sans rien avoir fait,
et qu'il... c'est mieux d'avoir quand même fait quelque chose, de vraies études.
C'est ça, il faut avoir de l'expérience et un peu de connaissances, parce que sinon, au final, tu risques, je pense, de ne pas tomber et ne pas trouver une certaine clientèle.
Ta patientèle, tu ne l'auras pas.
Ah bah oui, bien sûr. Parce
ou elle ne reviendra pas.
C'est ça, tu vas trouver des gens qui vont venir une fois, parce qu'au final, tes conseils, ils sont trop bancals, ils vont bien voir que tu ne connais pas du tout le sujet, et du coup, ils ne reviendront pas, et tu vas avoir une pub misérable.
Et ça ne va pas fonctionner.
Clairement pas. Sachant que dans ce genre de métier, c'est vraiment le plus important, c'est la clientèle. Il faut vraiment réussir à faire une clientèle et avoir une bonne image de marque. C'est bête, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le bouche à oreille. Ouais. Et du coup, après, on a étudié lui et moi les différentes formations qui existaient. J'ai pris la plus grosse, celle avec les stages, etc. Évidemment, la plus chère.
C'est comme tout. Malheureusement, ça se paye.
Ça se paye. Et heureusement, j'avais de l'argent de côté et je me suis dit, Brian. À ce moment-là, t'as 23 ans. Si tu le fais pas maintenant, ta reconversion professionnelle, tu vas pas la faire dans 10 ans, quoi.
C'est plus dur à 40, hein.
C'est plus dur. Et au final, c'est ça que j'ai remarqué, parce que dernièrement, du coup, j'avais un stage sous la thématique de la dynamique de couple. J'ai remarqué que la vingtaine de personnes qui étaient avec moi à ce stage, c'était des adultes. J'étais le seul jeune, et je me suis pris un peu une claque dans la gueule. Je me suis dit, mais c'est fou à quel point, au final, c'est tous des gens qui font des reconversions professionnelles comme moi, mais du coup, qui s'en sont rendus compte plus tard. Et j'ai une chance énorme, quoi. Parce que moi, je vais arriver sur le marché du sexothérapeute, j'ai envie de dire. Du coup, j'aurai 24 ans, peut-être 25 si c'est début de l'année prochaine, tu vois, mais je serai méga jeune. J'aurai cette force-là.
Comment tu comptes faire? Tu comptes t'installer, ouvrir un cabinet? Comment tu vas travailler?
Alors, dans un premier temps, je pense que ça va être en libéral. Donc, peut-être dans un cabinet, si je trouve... un endroit, mais du coup à Poitiers il y a pas mal de spécialistes, tu vois, et je me dis un partage de cabinet, etc. C'est des choses qui sont faisables. Tu vois, je traverse ma route, il y a un podologue. Franchement, go ouvrir un truc avec lui, quoi.
Oui, ça peut être très bien. Au contraire, tu bénéficies de locaux, t'as pas besoin de grandes places.
C'est ça, et puis le loco au final coûte deux fois moins cher, tu vois, on se partage le loco, parce qu'il n'y a pas besoin d'être tout le temps là-bas, et puis moi j'ai la facilité, le sexothérapeute, en tout cas on peut faire du visuel, enfin du
distanciel, tu vois.
Ouais, ça, distanciel, on peut être sur l'ordinateur et puis faire quelque chose à distanciel, comme je fais actuellement au final avec ma communauté. Je pense que je ferais ça, et puis après moi mon copain du coup il est dans le médical, il est encore... quelques années d'études, mais lui, quand il aura fini ses années d'études, il compte ouvrir une maison de santé à La Réunion. D'accord. Et je pense que je le suivrai et que j'aurai ma place dans cette maison de santé.
Donc toi, tu iras en tout cas exercer en face à face, mais en parallèle, tu continuerais le podcast, tout ?
Ah ouais, bien sûr, la création de contenu, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, bien sûr que oui, de toute façon. Et en plus, j'ai envie de dire, en tant que sexothérapeute, avoir ce truc-là de création de contenu sur les réseaux, ça me fait un peu de la pub. Tu vois, j'ai envie de dire, parce que du coup, les gens savent tout de suite ce que je fais, voient que j'ai des connaissances, voient que je donne aussi des connaissances et j'aide les gens gratuitement. Ça montre que je suis pas là pour l'argent. Moi, de base, bien sûr que je vais être payé, parce que ce sera mon futur métier, donc j'ai besoin de payer mes factures. Mais à côté de ça, gratuitement, je donne des conseils et actuellement, gratuitement, puisque je suis pas encore pas fini ma formation, gratuitement j'aide les gens, quoi, à fond.
Il y a quelque chose qui te tenait à cœur, c'est j'imagine qu'on se lance pas dans ce métier là comme ça, il y avait quand même des choses. L'idée c'était quoi? C'était de résoudre des problèmes de couple, plutôt de vraiment parler très librement de sexualité et d'aider sur ce plan là parce que la sexualité c'est large, hein, le couple aussi en fait partie. C'était quoi ta motivation intrinsèque, toi, au fond de toi?
C'était de mettre un peu toutes ces connaissances que j'avais de la sexualité pour tout le monde, que tout le monde y ait accès, que tout le monde puisse obtenir de l'aide, parce que je sais que c'est des questions qu'on pose pas forcément autour de soi, parce que c'est hyper tabou dans la société actuellement dans laquelle on vit, et c'est très dommage. Mais du coup, je me suis dit, je veux être cette personne qui va aider les gens et qui va leur montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir de tabou, il n'y a pas besoin d'avoir peur et d'assumer qui on est. On peut parler librement à des gens. Et j'ai envie d'être cette personne et je pense que j'ai trouvé la bonne voie.
Parallèlement à tout ça, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est ta présence sur les réseaux sociaux. Tu es très très présent puisque tu as parlé de création de contenu. Alors évidemment, tu es très présent sur les réseaux sociaux. Je mettrai tout ça en description du podcast, mais tu l'as dit, il y a TikTok, il y a Instagram. Qu'est-ce que j'ai pas dit d'autre en plus ? Il y a Twitter également. Sur Twitter, tu as des engagements. Et on le sent clairement sur ton Twitter, il y a des engagements. Et notamment, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est le hashtag du dimanche soir. D'où ça vient cette histoire du hashtag du dimanche soir qui est repris partout en France, qui arrive même dans les top hashtags, etc. Enfin, c'est quoi cette histoire ?
Et bah, toutes les semaines, effectivement, on est en top hashtag quand même. C'est
Bah
assez fou tous les dimanches soirs à
oui. Et ça
18h.
part de là.
Et ça part de moi, ouais. Ça, c'est fou. Alors, en fait, ce truc-là, il a commencé par.
Il faut qu'on m'explique.
C'est ça. C'est souvent le truc pour lequel on m'interview.
C'est
C'est.
vrai?
Ah ouais, j'ai été interviewé par. Alors, tu sais, le magazine LGBT, comment il s'appelle?
Têtu, Tribulou,
Têtu. Bah,
Têtu,
Têtu. Il y a un
Tribulou,
article
ouais.
Têtu sur moi et sur le hashtag. Mais du coup, ouais, en fait, en gros, ça a été lancé par une américaine il y a longtemps.
Ouais.
Ce hashtag, ça fait quelques années que ça existe. Et moi, je suis arrivé là-dedans, je connaissais pas du tout, je voyais juste qu'il y avait un hashtag le dimanche. Et un jour, j'ai vu que le hashtag, il venait de plus en plus long. Enfin, là, en fait, l'américaine avait relâché le truc. C'était un français qui avait repris parce que, bah, du coup, elle ne la lançait plus. Et au final, le français en lui-même l'avait un peu abandonné. Et je me suis dit, mais c'est trop bête que ça soit plus à 18h et que ce soit genre, tu dois attendre 18h20 que quelqu'un se décide de machin. Et un jour, je me suis dit, ah, bah, tu sais quoi, c'est moi qui le lance. J'ai cherché un hashtag machin de dimanche. Je l'ai lancé à
Alors,
18h.
qui commence toujours par LGBT quelque chose?
C'est ça. De toute façon, le dimanche soir sur Twitter, si vous voyez dans les top hashtag LGBTQIA et puis un petit mot en anglais derrière, c'est nous. Et du coup, c'est
Enfin,
moi.
c'est surtout toi au départ.
Ouais, c'est moi qui fais le premier post,
Ouais.
mais c'est nous, c'est la communauté LGBT, quoi.
Alors, ça veut dire, attends, ça veut dire un truc, c'est fou quand même, parce que si c'est toi qui fais le premier post et c'est vraiment toi qui lance le hashtag, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui te suivent déjà aussi et qui vont relayer ce hashtag.
Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui me suivent. Pour le hashtag, je pense, qu'ils l'attendent parce qu'ils savent que c'est moi qui le lance. Mais il y en a d'autres aussi qui ne savent pas, parce que comme moi, quand je suis arrivé sur Twitter, je ne savais pas qui lançait le hashtag. Au final, tu vois un hashtag qui apparaît le dimanche soir, tout le monde
Qui
l'utilise.
arrive dans les tops,
C'est
qui est
ça.
agrémenté, repris et agrémenté de photos, on ne
Bah
sait pas
ouais.
qui l'a lancé.
Bah ça, on ne sait pas qui l'a lancé. Donc il y a plein de gens qui ne savent pas que c'est moi qui le lance. Et c'est pas grave, parce qu'en soi,
Je m'en fous.
okay, on n'a rien à faire. Tant que la communauté est là, tant qu'on partage et qu'on montre que nous, les LGBT, bah, on est là. C'est partagé aux États-Unis, en France, il y a des milliers de posts tous les dimanches. Enfin, c'est un truc de fou.
Mais alors, pourquoi alors ce hashtag? Alors, oui, parce que, bien sûr, l'idée c'est quoi? C'est de montrer que la communauté est là, qu'elle est présente, qu'elle est unie. C'est quoi? Parce qu'il y a une volonté quand même chez toi.
Bah, moi, c'est justement ça, je pense. Quand souvent on me demande pourquoi lancer le hashtag et tout, bah, moi, c'est pour ça. C'est pour montrer que la communauté, elle est là, qu'on existe. Ça nous montre aussi sur les réseaux. Ça énerve beaucoup les homophobes, hein, on va pas se mentir. Si tu traînes sur
Et
le
on s'en
hashtag.
fout!
Si tu traînes sur le hashtag, très souvent, tu as quand même des gens qui disent, oh, encore les LGBT. Bah ouais, on est là toutes les semaines, écoutez.
Voilà. Et pour longtemps.
Pour très longtemps, très longtemps. Et si un jour je ne lance plus le hashtag, sachez que je le donnerai à quelqu'un. J'ai un petit groupe qui m'aide à trouver, parce que j'ai un peu des manques d'inspiration parfois, et j'ai peur d'être en retard. Du coup, je me suis pris deux, trois amis à moi qui le lancent,
Au
qui
cas
sont
où.
là, et qui, au cas où, vous voyez que je suis pas là, ils le lancent. Mais en tout cas, voilà, il existera pendant très longtemps, je pense. Et il y a vraiment ce côté aussi, du coup, bah, montrer qu'on est là, qu'on est unis. Et
Fierté.
bah, c'est ça, c'est une fierté, tout simplement, l'entraide. Et puis aussi, parce que quand tu es LGBT, tu l'assumes pas forcément dans ta vie de tous les jours. Et qui mieux qu'un LGBT pour comprendre un autre LGBT, tu vois. Donc, se faire des amis dans la communauté, je trouve ça hyper cool. Et avec ce hashtag, je sais qu'il y en a plein qui se font des amis. Parce que tu likes les posts des autres, tu vas commencer à discuter. Oh, t'es trop mignonne sur cette photo. Tu vois, il y a des gens qui partagent leurs animaux, leur tenue du jour. Enfin, voilà, quoi, c'est hyper libre et c'est hyper good vibes.
Bah, l'idée finalement derrière tout ça, c'est bien sûr d'affirmer aussi, mais c'est aussi l'entraide, c'est aussi tout ça, bien sûr.
Ah ben non, mais totalement, ouais, c'est vraiment tout un processus, et il y en a beaucoup qui comprennent pas, et c'est pas très grave. Il y en a beaucoup qui trouvent ça toxique parce que du coup, oh, c'est des photos, du coup, ceux qui ont le plus de likes, c'est les personnes les plus jolies. Je mets des guillemets quand je parle. Oui, mais non, en fait, on s'en fiche de qui a le plus de likes. Le principal, c'est de partager, de kiffer, et que toi, tu passes sur le compte des autres pour voir s'il y a des gens qui t'intéressent,
Bien
tu
sûr.
vois.
C'est plus facile de s'assumer en tant qu'LGBTQIA+ sur les réseaux sociaux que sur dans la vraie vie, on va dire.
Je pense que ouais, parce que du coup, tu as quand même la barrière du téléphone. Quand tu es assez adulte, tu as ce truc-là de pouvoir prendre des distances avec les homophobes sur les réseaux. Moi, je reçois des centaines d'insultes par jour. Et est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Pas du tout. Oh, franchement, mais si jamais les gens veulent me donner du crédit en m'insultant en commentaire, etc., mais faites-le parce qu'au final, ça me donne de la visibilité et moi, j'en gagne de l'argent, tu vois.
Bien sûr.
Donc au final, leur négativité fait que ça reste des fans. Parmi tant d'autres, parce qu'ils sont là, ils regardent ton compte tous les jours pour voir si tu as fait un nouveau contenu, pour venir t'insulter. Au final, vous êtes fanatique, c'est tout.
Fuck les homophobes.
Bien sûr, un gros fuck même.
On arrive à la fin de ce podcast. Le mot de la fin, c'est ton moment. C'est tu vas pouvoir dire ce que tu veux. Là, moi, je vais me taire. C'est le mot de la fin. Et c'est à toi.
Si j'ai quelque chose à vous dire, c'est à toutes les personnes qui entendront le son de ma voix suave, c'est d'assumer votre sexualité, d'assumer vos fantasmes, vos envies, la communication, faites-le, que ce soit avec votre partenaire de toujours ou juste avec un plan cul, assumez-vous, assumez votre sexualité, soyez épanoui, n'ayez pas honte de vos envies. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent paraître parfois un peu compliquées à assumer, je pense à certains fétichismes ou des choses comme ça, alors que non, pas du tout, moi je le dis et je le répète, assumez-vous, tant que c'est dans la légalité, voilà, hein, on ne touche pas les animaux et les enfants s'il vous plaît, sinon je vais me mettre en colère, mais tant que c'est dans la légalité et que vous pouvez vous assumer, faites-le, parce qu'au final, si la personne qui est en face de vous est réticente autour de ça, bah c'est que c'est pas la bonne personne, parce que vous pouvez pas être à fond vous-même avec cette personne. Et si vous avez des problèmes avec votre sexualité, n'hésitez pas à consulter des professionnels. Bon, alors moi je suis là, s'il y a besoin, mes MP sont ouverts, même si du coup je suis encore en formation, hein, mais je peux vous aider. Mais si jamais vous avez des professionnels de santé autour de la sexologie, de la sexothérapie près de chez vous, faites-le, parce qu'au final ça coûte rien, et c'est, la santé sexuelle c'est hyper primordial pour la vie, parce qu'on le sait, c'est tout bête, mais les gens qui ont une sexualité saine et qui se sentent bien dans leur sexualité vivent plus longtemps, les gars, hein. Moi je dis ça, je dis rien, mais si vous voulez être centenaire, il n'y a pas 36 solutions.
Baiser.
Baiser de ouf. Mais voilà, soyez épanouis et n'ayez pas peur d'assumer qui vous êtes.
Merci Brian.
Merci à toi.
Voilà, c'est tout pour cet épisode avec Brian. Mais Brian, vous allez très rapidement le retrouver ici dans Ces Garçons-là. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et pour un nouvel épisode tout à fait particulier. Restez à l'écoute.